Frères et sœurs, l'évangile s'est conclu en nous disant « Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Si nous avons l'évangile des noces de Cana au début, à la première semaine, à la seconde semaine du temps ordinaire, elle suit, vous l'avez vu la semaine dernière, le baptême du Seigneur. C'est un reste de la liturgie d'avant le Concile Vatican II, où en fait, après le temps de Noël, nous méditions sur différentes épiphanies, c'est-à-dire différentes manifestations du Seigneur. Et dans l'évangile de Jean, vous l'avez entendu puisque Jean lui-même le dit, c'est la première manifestation de Jésus. Dans l'évangile de Jean, puisque dans les autres évangiles, on nous parle du baptême du Seigneur. Ce n'est pas contradictoire au niveau historique, c'est que les évangélistes eux-mêmes veulent insister sur tel ou tel aspect. Et il est important de voir que dans l'évangile de Jean, les deux premiers chapitres se déroulent en fait sur 8 jours. Le premier, le deuxième, le troisième. Et si je vous dis que l'évangile de Jean commence par 8 jours, les noces de Cana se situant au 4e ou au 5e, je ne sais plus, eh bien en fait, cela fait référence à 8 autres jours. Que sont les 8 jours de la création dans le livre de la Genèse? Dans le livre de la Genèse, Dieu a inauguré sa création par 8 jours, en créant progressivement et en mettant au sommet de cette création l'homme et la femme. Et l'évangile de Jean commence par 8 jours, comme pour nous dire qu'avec le Christ, c'est une nouvelle création qui s'inaugure. Jésus est venu inaugurer une nouvelle création. Et au sommet de cette nouvelle création, Jésus fait comme son Père. Il y place l'homme et la femme. Jésus vient à un mariage. Vous voyez, pendant quelques années, quelques siècles, pour dire les choses simplement, l'Église a parfois considéré, enfin l'Église, certains de l'Église, ont parfois considéré le mariage comme une sous-vocation ou une vocation par défaut. On n'était pas appelé au sacerdoce ou à la vie religieuse, donc on se mariait. C'est une très mauvaise interprétation. Parce qu'on voit bien qu'avec l'évangile de Jean, nous ne pouvons pas tenir cela. Le premier acte de salut que Jésus veut poser est au cœur de la famille. Et pourquoi Jésus veut poser un premier acte de salut au cœur de la famille? Eh bien parce que dans la création originelle, au livre de la Genèse, le premier péché, la première blessure est venue au cœur de la famille. Et si la première blessure et le premier péché est venu au cœur de la famille, Jésus veut le réparer au cœur de la famille. Il veut faire éclater le salut au cœur de la famille. Et donc, frères et sœurs, c'est pour nous dire toute l'importance que revêt la famille aux yeux de Dieu. C'est pour dire toute l'importance que revêt vos familles, nos familles, aux yeux de Dieu. Et vous savez, qui que nous soyons ici, célibataires ou mariés, nous avons tous une famille. Donc, cela nous concerne tous, quel que soit notre état de vie. Dieu veut s'inviter dans les familles. Nous faisons parfois une dichotomie entre notre foi et notre vie de tous les jours. Ça ne tient pas. Dieu s'y invite. Marie s'y invite. Alors, je voudrais insister avec vous sur quelques petits détails de cet évangile si riche. Et le premier mot que je voudrais vous faire bien voir, c'est ce mot de « femme ». Jésus interpelle sa mère en lui disant « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et vous voyez, l'évangile de Jean est construit. Il nous a laissé des petites touches pour nous faire rentrer dans son texte et dans sa méditation. Il y aura un autre moment dans l'évangile où Jésus dira « Femme » à sa mère. Quel est-il, ce moment? Est-ce que vous vous souvenez? Bien, c'est à la croix. Femme, voici ton fils. Et vous voyez que les noces de Cana sont programmatiques de tout ce que Jésus va vivre dans l'évangile et va faire vivre à ses disciples dans l'évangile. Nous sommes à un mariage. Il manque de vin. L'époux, d'ailleurs, est absent dans l'Évangile, si vous voyez bien, mais j'y reviendrai après. Quelles seront les autres noces dans l'Évangile, si ce n'est les noces de la croix, où Jésus répandra le vin nouveau, où Jésus répandra le vin nouveau qui est son sang, qui sera multiplié, démultiplié, de siècle en siècle, d'Eucharistie en Eucharistie, d'autel en autel, que nous appelons les noces de l'agneau. Voyez, Marie est en train de dire à son fils, quelque part, « Presse le salut, accomplis le salut pour lequel tu es venu, accomplis ce salut que les hommes attendent et que les hommes espèrent. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. À la croix, cela deviendra. Femme, voici ton fils, mon heure est venue. » Dieu accomplit le salut. Je voudrais, frères et sœurs, avec vous, que nous méditions et que nous contemplions cette foi de Marie et cette foi des serviteurs, parce qu'il faut un tout petit peu toucher du doigt le réalisme de cette scène. C'est l'évangile que j'avais pris pour ma première messe, et je vais vous faire une petite confidence. Le lieu de pèlerinage que je préfère en France, c'est Notre-Dame de la Salette. Et Notre-Dame de la Salette, le peintre Arcabas a fait une magnifique fresque qui raconte toute cette scène de Cana. Et il faut un tout petit peu contempler les détails parce qu'Arcabas nous a bien fait rentrer dans cette scène. Imaginez-vous deux minutes. Vous êtes petit serviteur à ce mariage. D'accord ? Vous êtes le servant. Une femme que vous ne connaissez pas vient vous dire, voyez le gars là-bas, faites tout ce qu'il vous dira. Vous ne connaissez pas non plus ce gars. Personne ne le connaît. Ça va ? On manque de vin. Donc il y a un vrai problème au niveau de la fête. Et ce gars que vous ne connaissez pas vient vous dire, vous voyez les lavabos là-bas avec lesquels les Juifs se lavent ? Parce que c'est ça, les cuves pour les ablutions. Vous allez les remplir d'eau et vous allez emporter au maître du repas qui coûtera le vin. Ça vous fait un petit peu réfléchir sur ça nous fait réfléchir sur la foi des serviteurs et ça nous fait réfléchir sur la foi de Marie qui, quand son fils l'a gentiment remise en place quand même, « Maman, que me veux-tu ?» Ce que nous faisons tous avec nos chères mères. Eh bien, Jésus lui obéit. Jésus vient accomplir ce que Marie lui demande. Donc, voyez, frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus nous invite à une véritable confiance. Quand les choses paraissent complètement foutues, quand les choses paraissent inéluctables, quand les choses paraissent objectivement et naturellement, sans autre possibilité que l'échec, Dieu est toujours capable de réaliser un miracle. Encore faut-il pour cela que nous l'invitions. Jésus et Marie avaient été invités à ce mariage. Jésus et Marie avaient été conviés avec nous. Vous voyez, frères et sœurs, je ne sous-estime pas que dans nos familles, il y ait des souffrances. Je ne sous-estime pas que la situation conjugale parmi de certains d'entre vous n'est pas simple. Marie et Jésus veulent venir vous rejoindre. C'est quand nous sommes au cœur de nos échecs, quand nous sommes au cœur de nos souffrances, Jésus s'invite, Marie s'invite pour restaurer en nous cette joie d'être des hommes et des femmes vivants, debout, avec Dieu. Voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'époux dans cet évangile. Le maître du repas, qui était le maître de cérémonie à l'époque, « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Cette parole, elle ne s'adresse pas au mari, elle s'adresse à Jésus et à Dieu. Jusqu'à présent, dans tout l'Ancien Testament, le bon vin n'avait pas encore été complètement répandu. Dieu n'avait pas complètement répandu son salut. Dieu n'avait pas complètement répandu sa joie. Or, avec cet évangile, Dieu veut nous faire comprendre que sa joie qu'il veut nous donner, elle est en plénitude avec le Christ. 6 cuves de 100 litres, nous dit Jésus. 600 litres de vin ont été créés par Jésus à ce mariage. Je ne sais pas combien il y avait d'invités, mais je pense qu'ils ont dû bien s'amuser quand même. Hein, 600 litres. Combien Jésus veut renouveler en nous, frères et sœurs, notre joie et notre espérance d'être croyants. Notre joie et notre espérance de le connaître. Notre joie et notre espérance de savoir que de toute manière, au final, Dieu est vainqueur. Là, notre espérance. Marie avait au cœur cette espérance et cette foi. Elle savait que de toute manière, quels que soient les événements, son fils répond toujours à la demande des hommes et des femmes. Encore faut-il que nous l'appelions. Encore faut-il que nous crions au secours. Je voudrais terminer sur une chose, frères et sœurs, et vous supplier avec insistance. Plus j'avance, je vais jouer au vieux 5 minutes, plus j'avance et plus je m'aperçois que nous ne sommes pas au rendez-vous de la famille, de la pastorale familiale et de nos propres familles. Et je voudrais nous interpeller sur une chose comme je l'ai fait déjà depuis quelques temps dans d'autres endroits. Nous ne pouvons pas interpeller la société, vous voyez à quoi je fais référence, sur la famille, si nous ne sommes pas nous-mêmes au rendez-vous de nos familles. Et quand nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus nous satisfaire de nos divisions, de nos manques d'amour, de nos rumeurs. Quand nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus nous satisfaire des divisions de nos propres familles. Et nous en avons tous, nous sommes tous concernés. Quand nous sommes chrétiens, à l'image de Marie et de Jésus, nous devons les premiers peut-être tendre l'autre joue, mais n'empêche poser un acte de plus grand amour que ces divisions, ces rancœurs, ces rancunes, etc., etc. Est-ce que nous répondons à l'appel du Christ? Est-ce que Marie vient nous interpeller en disant « Faites tout ce qu'il vous dira ». Voulez-vous sauver vos familles? Voulons-nous sauver nos familles? C'est cette question qui se presse à nous. Et nous ne serons crédibles aux yeux du monde et de la société que si nous répondons à cet appel du Christ. Comme les chrétiens seront crédibles aux yeux du monde s'ils guérissent enfin leur division. Alors frères et sœurs, supplions le Seigneur dans cette Eucharistie. Accueillons la Vierge Marie, accueillons son message, faites tout ce qu'il veut.